Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co, à retrouver en podcast évidemment, et sur la chaîne, et sur YouTube, et partout où vous voulez, pour parler de l'actualité vidéoludique. Et le début d'année a quand même été sacrément chargé. On va faire une émission, c'est la dernière avant les vacances, et bien justement on va revenir sur ce début d'année extrêmement chargé pour nous journalistes, avec deux experts à mes côtés. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Loïc Rallet. Alors, beaucoup de gens te connaissent sous le nom d'Épion,
ouais.
ton ancien pseudo.
Tout à fait, ancien nom de travail.
Voilà, quand tu étais à jeuxvideo.com.
Tout à fait.
Toujours un œil avisé.
Toujours.
Sur l'actualité.
C'est la
jeux vidéo. Voilà. Et face à toi, Lame. Bonjour,
oui.
Lame.
Très bonjour, ouais. Ça va bien, Mélina, merci de m'avoir invité.
Mais voilà, je suis ravie de t'avoir.
Journaliste aussi.
Un peu plus streamer maintenant.
Oui, beaucoup plus streamer, mais pareil, j'étais ancien collègue de Loïc chez jeuxvideo.com, je passais par le numérique.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Et on dose le jeu vidéo, bien sûr.
Ah, évidemment.
On regarde l'actualité, et c'est vrai qu'elle est rigolote.
Alors, on va avoir de quoi se parler. Évidemment, vous avez vu deux experts quand même pour m'accompagner. Et on va commencer avec l'actu à chaud, et elle est vraiment très très à chaud. Bon messieurs, quand on avait préparé l'émission, c'était pas prévu, mais l'actualité ne nous écoutant pas vraiment, hein, on a dit que c'était repos, on a dit que l'actualité était calme.
Ils l'ont fait pour toi.
Ils l'ont fait rien que pour la dernière. On ne pouvait pas faire ce rétro de début d'année sans parler de l'affaire du rachat d'Activision Blizzard par Xbox. Alors, on va évacuer tout de suite le sujet.
Ouais.
Loïc, qui a travaillé là ces derniers temps pour Xbox, ouais. T'as un peu quand même un devoir de réserve là-dessus.
Tout à
donc
fait.
Je n'irai pas t'embarquer sur des sujets épineux. Mais bon, tu peux quand même parler des faits, rien que des faits. Lame, est-ce que tu peux nous résumer cette histoire de rachat qui dure,
ah là là.
Dure, mais on arrive peut-être à la fin.
Alors, il était une fois le plus gros éditeur de jeux vidéo occidental au monde. Le triumvirat Activision Blizzard et King aussi, un petit éditeur qu'on nomme moins mais qui pèse des milliards parce que c'est Candy Crush.
C'est eux qui pèsent le plus hein,
ouais. Qui avait une valorisation qui, je pense, à un moment passait la barre allègrement des 100 milliards de dollars. Sauf qu'à un moment sont arrivées aussi des enquêtes en interne et des résultats en même temps de ventes décevants, notamment pour Blizzard, qui ont fait qu'à un moment cet éditeur était en difficulté. Et c'est à ce moment-là que Microsoft a peut-être vu les soldes. Voilà. Donc nous, il y a les soldes en ce moment. Eux, ils les ont vécus. Ils les ont vus fin 2021, puisqu'ils ont proposé la somme énorme, mais en même temps un peu au rabais, de 68,7 milliards de dollars, je crois.
Comme quoi, on n'a pas tous le même montant pour les soldes.
Hein. Voilà. Chacun ses 30%.
Hein. Chacun son
portefeuille.
Moi, j'ai sur le bon coin. Eux, ils achètent directement. Et donc. Xbox, qui est un acteur maintenant depuis plus de deux décennies dans le jeu vidéo, mais qui a toujours été un peu le troisième larron, et qui était toujours un peu en manque de ces licences surpuissantes qu'ont Nintendo, qu'ont Sony notamment. Ils se sont dit, on a peut-être là le coup du siècle. C'est le rachat, effectivement, de toutes les licences Blizzard, de Call of Duty, bien sûr, de Candy Crush. On peut le faire. Et donc, ils ont proposé un rachat, et maintenant, un peu plus d'un an et demi, qui a été assez. Qui a beaucoup fait discuter.
Mouvementé, surtout.
Voilà. Puisque, à la fois, Xbox n'était que le troisième acteur du monde du jeu vidéo pur et dur, mais c'était aussi Microsoft derrière, qui est un géant dans bien d'autres secteurs, et qui a déjà été épinglé pour des positions de monopole ou de positions dominantes. Et donc, depuis un an et demi. C'est la saga. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pas y arriver? Sony s'est évidemment érigé en étendard pour contrer ce rachat, expliquant qu'il allait mettre en danger l'équilibre du jeu vidéo. Les autorités de régulation.
Sony, qui est quand même des trois du trio avec Nintendo le plus puissant, c'est évidemment, je pense que.
Et sur les exclusivités, bien sûr.
Sur les exclusivités, on l'a vu, puis les exclusivités ailleurs, chez Square.
Donc, ils ont, bien sûr, c'est le business. Hein, ils ont défendu leur business à eux. Et il y a eu évidemment. Le regard et les enquêtes menées par les autorités à la concurrence, notamment à Bruxelles, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec des plot twists. Je pense qu'un scénariste de Naughty Dog n'aurait pas réussi à faire aussi bien.
Tu veux dire que ce ne serait pas une exclusivité PlayStation, cette affaire au rebondissement ?
Mais une belle affaire, en tout cas.
On parlait, alors, là, l'information qui est sortie, c'est que, donc, pour rappel, l'Union européenne et beaucoup d'autres pays ont donné leur accord. Alors, il faut quand même préciser que si l'Union européenne dit non, si la FTC, donc l'autorité de la concurrence américaine, dit non, ça n'annule pas le deal. Ce ne sont pas des gens qui ont un veto dessus, en fait. C'est ça qu'il faut bien rappeler. Ce n'est pas parce qu'ils disent non que ça ne se fait pas. C'est juste que c'est un peu plus compliqué pour les démarches ensuite. L'Union européenne a dit oui. La FTC avait dit non.
Non.
Mais ça ne compte pas, donc ce n'est pas grave. Donc, ils sont allés en justice.
Ouais.
La CMA a dit non aussi. Ça compte pas, mais c'est un peu plus gênant. Et donc là, il y a un procès en appel. L'information, c'est que la FTC s'est fait retoquer par la justice pour son devoir de blocage. Est-ce que tu peux expliquer à peu près ce que c'était, ça, cette histoire de blocage ? ou pas, Loïc? Ou t'as pas le droit? T'as le droit de nous dire que t'as pas le droit. Alors, je vais le faire. Je vais le faire.
Bah, pas le droit, on va pas le droit.
Voilà.
Plus,
non, en fait, ils voulaient bloquer le rachat parce qu'on sait que le 18 juillet est une date butoir pour les deux, pour Activision et Xbox. Sinon, il va falloir donner des sous.
Oui.
Alain, enfin, il va falloir que Xbox donne, Microsoft donne des sous à Activision Blizzard parce que le deal n'aura pas été finalisé.
Ouais, une petite amende de
3 milliards,
vite fait.
Ouais, mais c'est les soldes. Donc là, la FTC s'est fait retoquer le droit de suspendre les négociations.
Et apparemment, leur dossier était vraiment insuffisant. Si j'avais été prof, j'aurais dit à refaire.
Mais voilà, bah, c'est un peu ce qu'a dit, c'est un peu ce qu'a dit le juge du tribunal fédéral. Voilà. Ils ont dit, c'est un peu à revoir. Non, ils ont bloqué. Donc, à partir du moment où le blocage est levé, la tentative de blocage temporaire est levée, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui empêche désormais le deal de se faire.
Et puis, cerise sur le gâteau pour Microsoft, la CMA a un peu agité le drapeau blanc. On savait qu'elle était sous pression, notamment de Bruxelles, parce qu'effectivement, elle résistait à ce deal, elle avait donné un nom assez formel. Mais là, ils ont appelé à réouvrir des négociations pour, dans les prochains jours, voir ce qu'ils pouvaient faire globalement. Donc, cette date butoir du 10 juillet, je pense qu'on va y arriver. Hein.
Moi, je pense que ce sera dealé avant. Alors, la FTC essaye quand même de faire appel de la suspension. Je ne vois pas un tribunal, parce qu'il faut savoir qu'ils ont, en gros, jusqu'au 14... Alors, nous, on enregistre le 13 juillet. La FTC attend de faire un blocage à partir du 14 juillet pour bloquer justement les négociations d'ici au 18. Est-ce qu'un tribunal peut décemment, un autre tribunal que celui qui vient de dire non au blocage, va reprendre le dossier et dire « Ok, allez-y les gars, en 24 heures, on règle tout ça et on vous donne une autorisation de blocage. »
Non, c'est compliqué. Puis ils ont un historique de défaite dans leurs appels. En plus, je crois qu'ils ont gagné seulement 3 fois en appel, il me semble, que ce que j'ai lu. Du coup, ça paraît...
Ils n'avaient pas réussi avec Meta et le rachat de Weezings
Après, mais ces derniers mois, dans la tech, on avait vu quand même des rachats monstrueux qui avaient été bloqués. Donc, justement, Meta qui avait voulu racheter Giphy. Giphy qui était le leader des chiffres animés. Et surtout, le deal entre ARM, l'Européen qui appartenait à SoftBank et Nvidia, qui est un deal avec plus de 40 milliards de dollars, qui a été également bloqué pour aussi des potentielles positions de dominance,
rigueur,
etc.
C'est vrai que sur Nvidia et ARM, on voyait un peu quand même, là c'était très très gros, c'est le numéro 1 et le numéro 2 qui
se mettaient. Mais on a quand même vu que des autorités à la régulation pouvaient un petit peu...
La CMA était plus forte pour ça.
Voilà, ils pouvaient un petit peu stopper quoi. Donc moi, franchement, à un moment pour Blizzard Activision et Microsoft, j'étais pas sûr que ça allait passer à un moment.
En fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils vont faire appel, mais il faut voir ce qu'ils présentent de nouveau à leur dossier, parce que si c'est pour repartir sur les mêmes bases, qui étaient effectivement assez fragiles et qui les a amenés finalement à perdre le petit challenge contre Microsoft, est-ce qu'ils auront des nouvelles de nouvelles croquettes, on va dire, ajoutées au truc là en l'espace de quelques jours? C'est pas comme si, de point de vue, là je vais prendre toute la distance nécessaire pour avoir regardé ça quand même.
Toi,
de près
pendant dedans,
un certain
même.
Temps, voilà. Bon, après, ça impactait pas notre travail non plus au quotidien, mais forcément, t'as un œil dessus. Et le dossier était quand même très fragile, donc du coup, qu'ils aient perdu, ma petite perso, ça ne m'a pas surpris. En tant qu'ancien spécialiste de l'actualité Xbox, etc., lorsque j'étais journaliste chez GV.com, c'est quand même des choses que j'ai suivi de très près. Le dossier me paraissait un petit peu fragile, donc je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir ajouter de fondamentalement différent qui pourrait changer la donne là.
Et rapidement.
Et rapidement, surtout
rapidement, ouais, pour moi, c'est le délai. Surtout.
Avoir des éléments à présenter, ce n'est pas tout ça. Il faut ensuite nourrir chacun de ces éléments avec des arguments, des exemples, des. Là, bon.
Ouais. Est-ce qu'on met le champagne au frais là chez Microsoft?
Alors, je pense que chez Microsoft, ils mettent le champagne au frais et je ne serais pas surpris qu'ils nous fassent une conférence spéciale d'ici la fin de l'année si le deal se signe. Parce que, encore une fois, imaginez une conférence, je ne sais pas, en septembre, en octobre, ou après avoir fait le Bethesda Showcase, quand ils avaient racheté Bethesda il y a quelques années, ils font le Xbox Activision Blizzard Showcase. Et ils nous annoncent que Diablo 4 arrive dans le Game Pass, que World of Warcraft arrive dans le Game Pass, et autres petites sucreries.
Plus que Call of Duty, à mon avis, ils risqueront pas tout de suite. Je pense qu'il y aura une trêve, une paix des braves.
Ils ont promis que Call of Duty resterait un jeu multiplateforme pendant 10 ans. Même Nintendo, qui a rien demandé à personne, se retrouve avec Call of Duty sur la Switch.
J'attends quand même de voir
Nintendo,
ça tourner.
Nintendo, c'est là genre, ok, moi je vais le prendre, mais bon. Donc, j'ai envie de dire que Call of Duty, ce sera pas un argument de vente direct en termes d'exclus, mais je pense qu'annoncer notamment tous les jeux Blizzard sur le Game Pass, par exemple, ou même, encore une fois, les codes sur le Game Pass, ça va être surpuissant, et j'imagine bien Microsoft sabrer le champagne, mais avec une grosse keynote d'ici la fin de l'année, quoi.
Voilà. Et que ce soit au Game Awards peut-être, ou... Peut-être à la Gamescom aussi, annoncer...
Ou à la Gamescom,
Et n'oublions pas, c'était King, on en parlait vite fait, mais c'est King sur tout le nerf de la guerre. Ouais. On avait eu Phil Spencer en interview, vous pouvez retrouver l'interview d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Tech & Co, où il nous expliquait que ce qui était très très important, c'était quand même le marché mobile sur lequel ils ne sont pas très très présents.
King fait plus d'argent que Blizzard.
Exactement.
Il fait plus de revenus que Blizzard et je pense que leur jeu coûte un peu moins cher à faire en plus. Donc, à mon avis, d'un point de vue rentabilité, King, ils doivent être.
Puis au-delà des rentrées d'argent et des IP que tu achètes, il faut voir aussi l'expertise que tu obtiens en achetant ces éditeurs, ces studios. On a subitement là des gens qui sont des experts du jeu sur mobile, qui savent non seulement faire des jeux mobiles, mais qui savent aussi faire tourner de l'économie sur un jeu mobile. C'est des choses qui aujourd'hui sont hyper importantes. Typiquement, pour parler de la concurrence de Microsoft, PlayStation, s'ils achètent Bungie, c'était il y a deux ans maintenant, s'ils les rachètent, c'est pas simplement parce que Destiny, ça marche bien et que ça rapporte de l'argent. C'est surtout parce qu'en les achetant, ils achètent un studio qui est expert dans le jeu en ligne, dans le jeu service, et donc qui vont pouvoir ensuite épauler les autres studios PlayStation dans leur velléité de proposer plus de jeux service.
Et d'ailleurs, ils vont aussi sur le jeu mobile. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre toutes leurs grosses licences sur jeu mobile chez PlayStation. Ça va être vraiment le nerf de la guerre ces prochaines.
Après, ça fait genre 10 ans qu'on le dit.
Ouais, il devait aller
le
sur le cloud.
Le mobile, ça va être très lourd, machin, etc.
Le mobile en Occident, c'est un jeu qui reste un jeu, j'ai envie de dire, pris à la légère pour faire un gros raccourci. Mais en termes de nombre de joueurs et de joueuses dans le monde, c'est très loin numéro 1.
En Asie,
encore une fois, la plateforme de jeu, même la plateforme de jeu core gaming ou hardcore gaming numéro 1, c'est le mobile.
Je
pense que chez nous, ça nous touche peut-être un peu moins.
Ça nous touche moins.
L'important, ce que je veux dire, c'est qu'on entend ce discours sur l'importance du mobile depuis hyper longtemps. Et je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas, pour parler de Xbox, on n'a pas un Halo comme ça qui tourne
pas fait
sur mobile. On n'a pas une Uncharted sur un téléphone.
C'est bizarrement Nintendo qui est souvent le plus conservateur des trois acteurs qui s'est tenté sur mobile avec ses Mario, ses Fire Emblem,
etc. Quelques réussites et quelques moins bonnes réussites.
Bon, messieurs, on va tourner cette page Xbox Activision qui, normalement, sur laquelle normalement on ne devrait pas revenir.
On verra
le prochain rebondissement. Comme tu as dit, ça ferait un super soap opéra. Et on va revenir sur ce début d'année de folie. Soyons clairs, on a des jeux qui sont sortis à l'appel des jeux majeurs, qui se vendent comme des petits pains par caisson de millions. Loïc a un œil sur ce début d'année. Mm-hmm. Est-ce qu'on a déjà vu une année, un début d'année, six premiers mois aussi denses? Pas dans un souvenir immédiat.
Je me fasse une historique, une chronologie des années précédentes, mais j'ai quand même, en tant que journaliste chez jeuxvideo.com, je sais que typiquement c'était 2017 ou 2018, je ne sais plus, qui avait été invivable.
Le 2017, le précédent
sorti. Effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que, étalé jusqu'en 2018, on avait eu des sorties comme Monster Hunter, c'était lequel, Monster Hunter World, je crois, à l'époque. Il y avait Dragon Ball FighterZ aussi qui était sorti le même mois. Enfin, ça s'est étalé comme ça un an pratiquement non-stop, où tous les mois, on avait pratiquement 2-3 énormes triple A. Enfin, c'était.
Là, on en a eu deux par mois quand même, quasiment.
Ouais, c'est vrai qu'on est en début d'année.
Dark World Legacy. Enfin, on a même. Enfin, Hogwarts Legacy, on s'attendait, l'héritage de Poulard, à ce que ce soit un carton.
Ça a été un carton. Hein.
Ça a été un énorme carton pour un jeu qui n'est sorti, rappelons-le, au début que sur PC et console de nouvelle génération.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, et qui chiffrait déjà à 12 millions en quoi, 10 jours ou je ne sais plus combien.
Ouais. Et qui était, en plus, alors moi, c'est pas mon genre, mais c'était un bon jeu. Ça aurait pu être une arnaque où on a mis 80% du budget dans l'achat de la licence. C'est un jeu qui a été taffé en plus. Hein. Donc, c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'il aurait pu tomber dans le piège de beaucoup de ces jeux un peu fainéants. Mais c'est un gros, gros jeu quand même. Hein.
Alors, moi, je l'ai fini. Et pourtant, c'est pas du tout mon kiff Harry Potter, j'avoue. Okay. Je me suis complètement laissé prendre au jeu. Comme tu dis, c'est très bien foutu. Il y a surtout une grosse variété depuis le début de l'année. Ouais. On a des thématiques. Alors, on a eu des jeux de baston. On a Hogwarts Legacy, qui est quand même un jeu extrêmement familial. On s'attendait surtout à ce que Zelda, Tears of the Kingdom, cartonne. Bon, ça,
Je ne m'attendais pas à ce point-là.
C'est vrai, tu ne t'attendais pas à ce point-là.
Souvent, quand tu as une suite, tu te dis, si la suite se vend aussi bien que le numéro 1, ce serait chouette. Là, on sait que Tears of the Kingdom est à la fois très différent, mais à la fois très proche. Ce n'est pas un épisode 100% différent de Breath of the Wild, contrairement aux Zelda, qui sont souvent des épisodes un peu indépendants les uns des autres. Et je m'étais dit, bon, c'est un Zelda 1.8.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on a une vraie suite.
Et puis là, tu vois les chiffres de vente.
Ouais, non, mais
on dirait un Pokémon.
C'est
truc.
En plus de ça, moi, je ne l'ai pas encore fait, en toute transparence. Breath of the Wild, donc la version précédente, c'est un de mes jeux préférés à ce jour. Hein. Il est rentré dans. J'ai un top 5, top 10, on va dire.
Il n'y a pas que du Xbox, il n'y a pas que des exclus Xbox
dedans. Non, mais il y en a très peu. Mais surtout, j'étais en mode. Je sais pas ce que ça a donné en fait de Breath of the Wild. Il est rentré, il a défoncé mon top 10, il s'est fait une place dedans sans problème. Le jeu est incroyable. Donc, du coup, j'avais un petit peu peur avec celui-ci qui, effectivement, reprend plus ou moins la même map, reprend une bonne partie de ce qu'on connaissait déjà. moi, ce que j'avais adoré dans le premier, c'était la découverte, quoi. Ouais. Il y avait plein de choses nouvelles, il y avait plein de choses à explorer. Enfin, tout était
comme toi, un peu de dire,
des nouveaux.
Ça va être perdu.
Et c'est ça. Et en fait, ce qui est
le début laisse un peu croire ça quand même. Oui, hein. Il faut avouer. Et si vous n'êtes pas encore lancé dedans, ceux qui l'ont pas fait, si vous avez fait le premier et que vous avez eu peur de vous perdre et que ça reprend un peu pareil, il faut passer aussi cette étape-là. Hein.
Ouais. Mais tout ce qu'ils ont apporté de nouveauté en termes de gameplay, donc toute cette partie construction, ça a eu une viralité complètement dingue sur les réseaux sociaux. Et c'est bête, mais aujourd'hui, une bonne partie de la promotion d'un jeu, elle se fait aussi par ça, par ce que les gens en disent et comment ils se comportent par rapport au jeu sur les réseaux sociaux. Et le buzz que le jeu s'est créé grâce à Twitter, Instagram et compagnie, c'est dingue. Le nombre de moi, tous les matins, je me levais, on me taguait sur une vidéo. Regarde, il faut que tu regardes ça, c'est incroyable. Et je voyais un mec qui avait construit un mecha, donc je suis fan de gros robots japonais. Donc forcément, à chaque fois qu'il y en a un qui apparaissait, on me taguait dessus. Il y a des mecs qui construisaient des robots de 20 mètres de haut, qui marchaient avec la musique de Gundam ou de Pacific Rim dans le fond.
C'est vrai que c'est n'importe quoi. Ça, moi, je l'ai pas vu venir sur l'aspect construction.
Ils l'ont très bien caché.
Ils l'ont super bien caché.
Ils l'ont vraiment introduit dans les derniers trailers. Et je connais plein de gens qui ont acheté le jeu, plein de gens qui aiment le jeu. Je connais quasiment personne qui a fini le jeu parce que les gens passent leur temps à faire les blaireaux avec le jeu et ils s'éclatent. Et c'est vraiment c'est le plus grand bac à sable du monde depuis Minecraft, je pense. C'est-à-dire que l'étendue des possibles est vertigineux. C'est un peu enivrant. C'est un peu dingue. C'est vraiment dingue.
Il est vraiment, vraiment particulier. Ouais. Un jeu qu'on attendait depuis très très longtemps aussi, qui a cartonné, c'est Final Fantasy XVI, qui est sorti au mois de juin. Alors, je dis attendu, c'est quand même fait largement attendre.
Et puis on avait peur.
Oui.
Final Fantasy, ça fait quelques années, on a un peu peur.
Chaque sortie, ça serre un peu les fesses.
Voilà. Et alors surtout qu'il nous avait sorti le remake. On nous avait beaucoup habitués au remake et à Final Fantasy VII remake qui a cartonné. On attend Rebirth. Final Fantasy XVI, est-ce qu'il est à la hauteur des espérances?
J'ai l'impression que ça. Moi, j'étais un fan de Final Fantasy avec le temps. Enfin, j'étais un fan de RPG japonais en général. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis un peu détourné du genre. Et j'ai l'impression quand même que le 16 fait débat. Il y a des gens qui adorent parce que ça propose une nouvelle façon de jouer à Final Fantasy. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup. Mais tous les gens que je connais qui sont de vieux fans de Final Fantasy, des vieux de la vieille, je vais pas nommer certains anciens confrères, typiquement, qui étaient chez un fameux site internet bien connu. Des amoureux de jeux vidéo et qui en disent pas beaucoup de bien.
Bravo.
En fait, c'est même pas juste qu'ils pensent que c'est nul. Enfin, j'ai pas l'impression que les gens trouvent que c'est pas bien, c'est juste que ça leur parle pas. Je pense pas que ce soit une question d'accessibilité, c'est juste que la formule a changé, notamment sur la partie combat, et j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui ça ne parle pas. Après, bon, on est en 2023, il y a encore des gens qui ne jurent que par le tour par tour.
Moi, je pense que c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire, c'est-à-dire que le Final Fantasy ou même le JRPG avait fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire en termes de jouabilité, d'expérience, etc. Et Final Fantasy, qui était, on va dire, dans les années 90, la plus grande licence du monde, comme on l'appelait souvent, désormais n'est qu'une grosse licence parmi d'autres. Et je pense que Final Fantasy XVI, aussi perfectible soit-il, il était nécessaire. Ils ont tenté des choses différentes. J'ai toujours respecté Square Enix pour tenter des choses différentes, encore une fois. Un peu comme Zelda jusqu'à il n'y a pas longtemps. Chaque Final Fantasy est un peu un univers différent. Ils repartent de zéro, alors qu'ils pourraient faire des suites avec tes personnages préférés non-stop.
Ils le font sur le côté, ça. Mais...
Comment ?
Ils le font sur le côté avec des spin-offs, ça.
Voilà, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un jeu où ils étaient en crise. FF15, c'était la crise. Même FF14, avant qu'ils le sauvent, c'était la crise. Les chiffres de vente n'étaient qu'en baisse sur Final Fantasy ces dernières années. Et là, ils ont tenté un truc différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Effectivement, il y a des gens qui ont adoré aussi le côté Game of Thrones à la japonaise, d'autres qui n'ont pas aimé.
Mais... Il est très clivant, il est très très clivant.
Mais en tout cas...
Il sort que sur une seule console aussi.
Oui.
Il faut dire qu'il marche bien, mais que sur la... On parlait des exclusivités, c'est une exclusivité PS5 pour le moment.
Ouais. Moi je dis bravo en tout cas pour la prise de risque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont tenté quelque chose. Effectivement, le combat, moi je ne suis pas un grand fan du tour par tour. Déjà dans FF7 Remake, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir fait du combat en temps réel. C'était très cinématographique, c'était assez agréable, c'était assez riche aussi à jouer. Donc je suis content pour eux. Je pense qu'ils ont relancé quand même Final Fantasy là-dessus pour pas mal de monde.
Est-ce qu'il y a un succès de ce début d'année, de ces 6 premiers mois que vous n'aviez pas vu venir ? Dans les licences qu'on marchait. Alors, je peux vous citer aussi, on pourra pas parler de tout ce qu'on a passé de temps, mais on a vu Star Wars Jedi Survivor qui est mieux que le Fallen Order, moi je trouvais. Le Dead Space qui est revenu à la vie.
Le remake
du premier slash un peu du 2 parce qu'ils ont pris les mécaniques, ils ont fait un peu leur sauce. qui était, moi, qui a été une bonne surprise. J'avais pas joué à ça depuis, bah, pareil, tout le monde 15 ans, je sais plus combien de temps. Et Resident Evil.
Ouais, Resident Evil 4, le remake.
4, le remake, mmh, ouais. Qui est un carton aussi de ce début d'année. On a quand même été un peu riche quand même sur le
Street Fighter 6.
Street Fighter 6,
Capcom, ouais. ils ont eu un déboule.
Là, eux, ils ont déjà sorti le champagne. Ça, on parlait de ça.
Capcom depuis 4 ou 5 ans.
Ah, ils sont sur une vague.
Depuis Street Fighter 5 a été, je pense, le creux de la vague pour eux.
Mmh. Ouais.
Les Monster Hunter, les Resident Evil Remake, je suis pas un fan des remakes, j'aime pas trop les
mêmes. Même avec vraiment, le 7 déjà, vraiment. Avec Village.
Ils sont sur un truc Capcom là, incroyable. Et notamment sur Street Fighter 6 qu'on voit à l'image, qui est vraiment un jeu ultra exigeant, avec une communauté historique encore plus que des Final Fantasy, où chaque mouvement, chaque frame data est commenté, chaque approche, etc. Qu'un jeu comme Street 6 fasse autant l'unanimité chez les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses et les vétérans, c'est aussi une très belle récompense. Mmh. C'est une très belle récompense pour Capcom. Et je crois que, je connais pas, parce que là on est sur les chiffres de vente, les jeux de baston ça se vend pas autant que des Hogwarts Legacy ou des Zelda, mais je crois que c'est un des jeux les plus joués sur Steam, toutes catégories confondues, ce qui est aussi un très très bon indicateur.
En fait, Street Fighter c'est un jeu de combat, oui, super, obvious, mais le nom a un prestige qui dépasse, ça attire, il y a ce côté phénomène, mes potes sont en train d'y jouer, je veux y jouer aussi, quoi. Et puis t'as le prestige de la marque dans un autre genre, Gran Turismo, est un jeu de course. Les jeux de course aujourd'hui, et j'en sais quelque chose, que c'est quelque chose que j'aime en particulier, c'est devenu assez niche aujourd'hui. Ça a pas empêché Gran Turismo de se vendre par palette
et d'arriver en série et en film, pardon.
Voilà, il y a un film qui va sortir, simplement parce que voilà, la marque Gran Turismo elle est hyper emblématique. Les gens, lorsqu'ils pensent à Gran Turismo, ils pensent à les permis, mes premières petites voitures, puis à la fin ma grosse BMW ou je sais pas quoi, peu importe. C'est des marques qui font vendre, simplement parce que voilà, il y a le prestige et c'est rattaché à des souvenirs, c'est rattaché à des
histoires. Mais si je jouais bon derrière, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ils se garantissent toujours des ventes parce qu'il y a le nom, comme tu dis. Mais les Gran Turismo Sport, je ne sais pas si je me rappelle, et Street Fighter V, c'est des jeux qui ont été très très critiqués.
Oui, qui étaient moins bons. Et
qui sont quand même bien vendus.
Mais qui sont bien vendus, c'est vrai.
Mais c'est un peu dur.
Messieurs, il nous reste un tout petit peu de temps pour parler d'une période infernale qui nous attend, qui sont les mois de septembre-octobre. En commençant avec Starfield, qui arrive déjà le 6 septembre, ou enfin, je ne sais pas si on doit dire arrive déjà ou enfin, vu que depuis le temps. Je vous cite en vrac ce qui nous attend pour ces mois-là. Starfield, Mortal Kombat 1, l'extension de Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, donc pour Loïc, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2. Le même jour, nous aurons Super Mario Bros. Wonder et Spider-Man 2, avant de finir en décembre, plus tard quand même, pour vous laisser tout digérer avec Avatar. On va commencer par Starfield. Est-ce que la rentrée va être sur les chapeaux de roue ou pas? Ou est-ce que...
Moi, je croise les doigts.
Je
croise les doigts pour que le jeu soit... bien fini.
À l'heure des espérances.
Ouais, non, bien fini. Bethesda a malheureusement une réputation. C'est des jeux qui, sur la longueur, se vendent très bien, ont une communauté incroyable, et donc ce sont des jeux qui sont souvent des très bons jeux sur la longueur. Jour 1, Bethesda n'est pas, malheureusement, est souvent client de sorties de jeux qui ne sont pas bien terminés, quoi.
Donc, il est en retard. On l'attendait au mois de novembre l'année dernière, à l'origine, je me rappelle.
Donc moi, j'y crois très fort. Moi, je suis un fan de SF plus que d'Heroic Fantasy. Donc, qu'on me dise qu'on va faire un The Elder Scrolls ou un Oblivion dans l'espace, je signe. De la gestion de vaisseau, je signe deux fois avec mon sang.
Il y a tellement de choses à faire dedans, on a l'impression qu'on va y passer 1500 heures.
Mais c'est ça aussi qui fait peur. Tous les jeux de l'espace qui vous disent ça va être un bon FPS, parce qu'il y a des phases de FPS, c'est d'action, un bon jeu de rôle, un bon jeu de gestion et de pilotage de vaisseau dans un univers énorme avec
des
planètes à l'échelle 1, etc. Je les connais, je me suis fait.
D'abord, No Man's Sky, toi.
J'ai vécu beaucoup de relations toxiques avec Star Citizen, avec Elisabeth Duroux.
Star Citizen, enfin une émission
avec No Man's Sky. Et avec même. Beyond Good and Evil 2, tous les jeux qui te proposent un scope et une échelle dantesque, qui est à dire tu peux aller d'un FPS très précis en 1 contre 1 à 1 mètre l'un de l'autre, on sent l'haleine de ton ennemi, jusqu'à une planète ou une galaxie modélisée à l'échelle 1. Tous ces jeux là n'ont jamais tenu leurs promesses à un certain niveau.
Trop d'ambition.
Là, c'est un RPG qui promet quand même des trucs un peu dantesques. C'est Bethesda, il y a quand même de quoi avoir très peur et être très excité en même temps.
Qu'est-ce que ça dit cette fin d'année ultra dense, Loïc, de l'industrie?
Il y a, je crois que c'est l'année dernière, hein, les gens se plaignaient qu'il y a eu, on a eu une année un petit peu faible. C'est l'année,
oui,
cette année ou l'année
prochaine. Ça devait être une super année 2022.
2022, c'était un peu faible.
Ça devait être une super année et on a tout maintenant.
J'en avais discuté un petit peu avec des gens sur les réseaux sociaux où moi, donc là, donc j'ai travaillé chez Xbox. Avant ça, j'ai travaillé chez Bungie. Et quand j'étais chez Bungie, c'était l'année du, notamment l'année des, du Covid et du confinement. Et j'ai vécu de l'intérieur ce que ça a pu créer, le Covid, en termes de travail, de réorganisation du travail, impact simplement sur les temps de développement, sur les temps de prod, en fait, tout simplement. Et à la sortie du Covid, le fait qu'il y ait des jeux qui soient repoussés ou qui n'arrivent pas exactement à la date attendue, ça ne m'a pas trop étonné. Et donc, du coup, forcément, on s'est tapé une année où il n'y a pas eu grand-chose. Le problème, c'est qu'à un moment, tous les jeux qui ont été décalés, il faut qu'ils sortent.
On a un embouteillage en 2023.
Donc, tu ajoutes tous les jeux qui, de toute manière, devaient sortir en 2023 pour une raison X ou Y, ben, forcément, ça bouchonne. Il y a un moment, il y a tous les jeux qui arrivent en même temps. Et les jeux, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, c'est toujours dangereux de sortir des. Typiquement, on a vu là quelques jeux décaler leur sortie de quelques semaines, voire d'un mois, pour pas arriver en même temps.
Bah, Baldur's Gate, qui est censé être un géant du calendrier 2023, Baldur's Gate a dû bouger à cause de Starfield.
Voilà. Simplement parce que voilà, même s'il y a un moment où on veut éviter de sortir en même temps que des gros noms, il y a un moment où il faut aussi que les jeux ils sortent, parce qu'à un moment il faut que l'argent y rentre.
Voilà. Bah là on voit des images de Lies of P qui devrait être aussi une belle surprise de rentrée et qui pourtant ne fait pas figure pas parmi les gros ténors attendus. Oui. L'âme, un jeu qu'il faut avoir fait depuis le début de l'année et un jeu que t'attends à la fin de l'année.
Bon, déjà, Mina, je te rejoins dans le club d'Ordogne.
Ah, évidemment. D'Ordogne. Faites tous d'Ordogne.
Le club d'Ordogne.
Le lobby d'Ordogne.
Évidemment, allez explorer les névroses de votre famille avec des beaux tableaux aquarelles.
Ouais, mais en version vacances d'été.
Quel beau pitch. Et après, il y a un jeu que j'attends, qui est un jeu français aussi, qui s'appelle Endless Dungeon, qui lui-même a été repoussé, qui va arriver au mois d'octobre, donc qui va arriver dans l'embouteillage. Mais Amplitude est un studio qui a une communauté très très suiveuse et ça coche toutes mes cases. C'est du co-op, c'est du roguelite, c'est du tower defense, c'est du tactique, c'est beau, j'ai envie d'y croire très fort. Et enfin, un jeu dont on a parlé juste avant l'émission, qui est en train de cartonner actuellement en Early Access, s'appelle Battle Beats. Et c'est un jeu de guerre réaliste entre Arma et Battlefield, qui se joue en 127 versus 127. Et ça a la tronche de Minecraft.
Ça, je vais aller voir. Battle Beats.
Et je vous annonce que Battle Beats, on va beaucoup en parler dans les prochains mois.
Ah bah voilà. Loïc, même chose. Un jeu qu'il faut avoir fait depuis le début de l'année, ou parmi les grosses sorties, ou parmi toi, pas avoir manqué. Oh, toi, t'as Zelda rattrapé déjà.
Moi, j'ai Zelda rattrapé déjà. T'imagines où j'en suis. Non, tout à l'heure, tu en parlais. J'ai adoré Star Wars Jedi Survivor, que j'ai fait deux ou trois fois de suite.
Ah ouais, ah oui, c'est pour ça que t'as pas le temps pour le reste.
Je suis le gars qui se plaint de pas avoir le temps et en fait qui recommence déjà en boucle comme ça. Là, j'ai enfin fait Cyberpunk, par exemple. Ouais, ça y est, enfin. Oui. Et lorsque j'ai terminé, après genre une centaine d'heures de jeu, j'ai relancé une seconde run où j'en suis déjà à 60 ou 70 heures dessus.
Voilà. Et Starfield, qui va te prendre 150 heures à la rentrée.
Et Starfield, il est possible qu'il me prenne beaucoup de temps, mais l'idée, c'est que mon planning de jeu il soit plus ou moins vide, tu vois, lorsque Starfield arrive et que je puisse me jeter dedans. Parce qu'en fait, comme l'âme, je suis pas trop un fan de Elder Scrolls et compagnie, parce que le setting de fantasy me parle pas des masses. Par contre, le même chose dans un univers sci-fi, je signe tout de suite. Il y a des choses qui me rappellent ce que j'ai bien aimé dans le premier Mass Effect, typiquement. Je sais que les gens avaient à détester l'exploration de planètes avec le Mako à l'époque, mais là j'ai vu un peu ça dans Starfield et moi ça me fait rêver d'avance, quoi. Des planètes sur lesquelles il y a rien et sur lesquelles on peut passer 150 heures à se promener, mais
tu le fais, quoi.
Tout de suite, mais oui, bon. Donc
mais il y avait eu suffisamment de quoi faire ça depuis le début de l'année.
Déjà, ne serait-ce qu'effectivement l'actu de la fin de l'année pour beaucoup de gens, c'est de rattraper le premier semestre 2023.
Et moi,
comment tu finis Diablo, Street Fighter, Final Fantasy, Zelda?
Tu peux pas, il n'y a pas 7 jours dans l'année. Ouais. On n'est même pas une année bissextile. Moi, j'attends Flashback 2, évidemment, depuis 30 ans, mais c'est pas grave.
Oh, l'hipster!
Mais ouais, grave, du haut de mon grand âge. Et je suis sur Oxenfree 2.
Qui est
le premier jeu, en fait, de studio. Ouais. De Night School Studio, racheté par Netflix. Et bah franchement, c'est assez sympa. Le premier était sympa.
Ouais.
Le deuxième est bien space aussi au niveau thriller surnaturel. Je vous le conseille.
Ah, chouette.
On est arrivé au bout de cette émission.
Déjà.
Donc merci à vous d'être venus.
Merci beaucoup, Mélina.
Merci pour l'invitation.
Bien plaisir. On se reverra, à mon avis, pour parler de plein de choses. On a une fin d'année dense. Pour ça, Lame, le nom de ta chaîne, on te retrouve où?
@Lamua, c'est mon nom et mon prénom. Je suis vraiment le plus nul des gamers. Je m'appelais Neo Killer Destiny, mais non, c'est Lamua sur Twitch et sur Twitter.
Et bah c'est pareil. Loïc, on te suit sur Twitter.
Oui, @EpionZilla, EpionZilla.
Voilà,
là,
lui, voilà, c'est plus compliqué.
C'est un peu compliqué, ouais. C'est vrai que le @Loïc Rallet, finalement, ça se
ressemble,
mais je suis attaché au EpionZilla parce que c'est aussi mon game.
Un vrai gamer. Voilà.
Et puis nous, on se retrouve à la rentrée, après l'été, pour parler de la Gamescom et de cette fin d'année très très dense. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour les débuts de multijoueurs. Voilà, on a fait comme l'année 2023, une bonne début de saison chargée. Vous pouvez retrouver l'émission sur Tech & Co, la chaîne, sur Tech & Co, le site, sur YouTube et en replay sur la plateforme RMC BFM Play. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On essaiera d'être encore meilleur à la rentrée. Bon été à tous et jouez bien.